Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'une action que nous devons mener d'une manière consciencieuse lorsque nous rencontrons un vis-à-vis chrétien, lorsque nous rencontrons un frère, une sœur en Christ. Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Quelle est l'influence que nous allons avoir? Quelles sont les traces que nous allons laisser dans leur vie? Peut-être qu'il y a des personnes que tu vas rencontrer que 5 minutes dans la vie. Il y a des chrétiens que tu vas rencontrer que 5 minutes dans la vie. Comment faire du bien à ton frère ou à ta sœur? Un exemple flagrant, c'est le frère Adier, qui s'appelle Hervé. Quand je l'ai rencontré le 17 janvier, ça fait un an, vous vous rappelez que le matin, et je le répète parce que c'est un témoignage, le matin avec l'église de Dieppe, on avait senti dans notre cœur qu'il fallait commencer un culte le troisième dimanche du mois. Chose que nous avons donc commencé à envisager, mais on ne savait pas où, ni rien. Et ce jour-là, on était chez Georgette, notre sœur de 94 ans, qui est battante, qui prie toujours à haute voix, qui est toujours avec le sourire, qui a toujours vraiment une bonne parole à donner à chaque personne qui s'approche d'elle. Et on était chez elle, et avant de prendre la Sainte Cène, j'ai dit, mais mes frères et sœurs, ça fait un an que je suis avec vous, donc pasteur, ça fait un an que j'ai entendu toutes les blessures que vous avez vécues, toutes les choses que vous avez vécues dans le passé, toutes les choses que vous avez subies dans les églises, etc. Mais est-ce que vous êtes prêts à pardonner? Est-ce que vous êtes prêts à vraiment dire, Seigneur, donne-nous la grâce de pardonner? On ne peut pas oublier, mais on veut pardonner parce qu'on veut passer à autre chose. On peut tourner la page. Et les 20 qui étaient présents se sont levés d'un bond. Même Georgette a essayé de se lever. On s'est dit, bon, tu peux rester assise, essayer. Mais bon, elle a un peu du mal à bouger. Et tout le monde, avec enthousiasme, ils ont vraiment prononcé cette prière de pardon. Et cette demande à Dieu de les aider à pardonner. Et le soir même, j'ai rencontré Hervé, un pasteur qui était découragé. Et alors, je lui avais téléphoné, on m'avait donné son numéro, on avait rendez-vous, et donc je le vois, et il me dit, voilà, ma mère est décédée il y a 2 ans. Et après le décès de ma mère, donc les 60 membres, ils ont saisi l'occasion de mon deuil pour partir de l'église. Mon décès. Les 60. Ça faisait 8 ans qu'on était ensemble, on n'a rien compris, il n'y a pas eu d'explication, ils ont disparu. Et il a dit, je suis complètement abattu, je suis complètement terrassé. Je n'ai plus le courage de rien, de faire quoi que ce soit. Mais il m'a dit, ce que Dieu a mis sur mon cœur il y a un an, c'est d'ouvrir un réseau d'encouragement pour les pasteurs découragés. Imaginez, un réseau pour encourager les pasteurs découragés. Et je lui dis, mais est-ce que toi tu n'encourages pas du tout? Pas du tout. Personne n'a pris le temps ni de prier, ni de savoir comment j'allais depuis la mort de ma mère. Je n'ai eu aucun de mes pasteurs, des amis, etc., etc., que je connais. Personne. Mais une fois par mois, je me rends dans certains endroits ici en France et je me rencontre avec des pasteurs qui ont passé par des moments difficiles. Faire du bien à ton frère. Faire du bien à ta sœur. Malgré ta circonstance, malgré les épreuves par lesquelles toi tu peux passer. Et donc bien sûr l'histoire c'est que maintenant depuis le 5 septembre on a acheté les locaux parce que le mercredi, alors à la fin de cette conversation le 17 janvier, il m'a dit mais tu sais on pourrait vous louer donc une partie de notre salle si vous voulez. Et en fin de compte mercredi quand on est allé, il me dit on va fermer l'église, ça vaut pas la peine de continuer, c'est que ma femme et moi, nos 2 enfants, mon père, on veut vendre les locaux, on vous les vend. Et c'est là donc où j'ai annoncé à l'église, donc le soir, le mercredi soir même, et tout le monde a applaudi, tout le monde était dans la joie, et depuis le 5 septembre, on est dans les locaux, donc à la zone de Talou, face au magasin des fêtes Isambourg, que tout le monde connaît. On est dans une zone industrielle à Dieppe. Mais tout a commencé, pourquoi? Parce que un frère cherchait à faire du bien. Malgré le fait qu'il a fallu qu'il meure, lui, à sa vision. Il a dû mourir à la vision de son église locale. Il a dû mourir, donc, à ce que lui, il aspirait à faire. Et aujourd'hui, alors, il a décidé de se consacrer. à continuer ce réseau. Et il me dit, Marc, tu ne peux pas savoir combien de pasteurs et combien des églises de courage je retrouve. Alors, le Seigneur nous demande de faire ça maintenant. Galates chapitre 6, on va le lire à partir du verset 1. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas des dieux. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Surtout envers les frères en la foi. Tourne-toi autour de toi et dis, je veux pratiquer le bien à ton égard. C'est-à-dire, je veux te faire du bien. Amen. Je veux pratiquer le bien à ton égard. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Hébreux chapitre 10, verset 22, verset 23, nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère, avec ou dans une plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter, nous provoquer, nous inciter, nous pousser à l'amour et aux bonnes œuvres. Quel est le but recherché? Nous avons lu en Tite tout à l'heure, avant de commencer le culte, en commençant le culte, on a lu Tite chapitre 3 et verset 8, « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » On doit veiller les uns sur les autres pour nous provoquer, pour nous exciter, pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Mais en faisant du bien à ceux qui appartiennent à la maison de la foi. Vous savez, quand on se rencontre entre chrétiens, même si on ne se connaît pas, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que c'est notre frère, que c'est notre sœur. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit qu'il y a, une lumière de Christ en eux. Si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres. C'est ça qui fait la différence. Si vous rentrez dans une salle d'attente avec des gens inconnus, mais il n'y a pas, vous pouvez dire bonjour, peut-être ils vont vous répondre, peut-être pas, mais il n'y a pas une communion. On peut être 5, 6. Là, donc, je vais voir le kiné deux fois par semaine, et là, je commence à m'asseoir avec les mêmes personnes, et je leur parle, ils me regardent un petit peu bizarrement, mais bon, quand même, je veux simplement voilà, un bonjour ou quelque chose. Mais ce n'est pas la communion. La communion, c'est avec ceux qui font partie de la maison de la foi. Les frères en la foi. Les frères en la foi. Alors, comment faire du bien? Premièrement, nous voyons Galates chapitre 6 et verset 1. Redressons avec un esprit de douceur. Agissons avec un esprit de douceur. Vous qui êtes spirituels, qui sont des spirituels? Mais ceux qui ne marchent pas d'esprit. Ceux qui marchent plus selon la chair, mais ils marchent selon l'esprit. Qui sont les spirituels? C'est ceux qui sont dans une communion spirituelle avec Dieu. Parce qu'il y avait les charnels et il y avait les spirituels. Il y avait des chrétiens à Rome qui étaient charnels et d'autres qui étaient spirituels. Si vous lisez donc les 16 chapitres de Romains, vous allez voir qu'il y a un conseil constant par rapport à ceux qui se font avoir par les choses de la chair. Et alors, il y a toujours une aspiration à être des spirituels. On est des êtres spirituels, on est des êtres bibliques, on est des êtres qui ont été touchés par la grâce de Dieu. Alors, la première chose dans notre relation les uns avec les autres, et aussi quand on voit des personnes qui portent des fardeaux, il faut les aider à porter leur fardeau. Il faut, si on voit quelqu'un qui est en difficulté, il faut s'identifier et le redresser avec douceur. Romains chapitre 15 nous dit que nous qui sommes forts, supportons les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Car rappelez-vous, quand vous étiez faibles, y avait-il des forts autour de vous qui vous ont redressé, qui vous ont encouragé, qui vous ont relevé? Frères, si elles ont bien été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 14 à 15, nous dit: avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous et poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Si j'applique la parole de Dieu à ma vie d'une manière pratique, il y a certains aspects de la charité que je dois exercer. Nous ne devons pas nous aimer comme si nous étions des frères. C'est parce que nous sommes des frères et nous sommes des sœurs. Et c'est pour cela que quand les uns et les autres peuvent s'absenter, mais on est soucieux. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis mon accident, je vais être franc, il y a des personnes qui ont décidé de s'absenter. S'absenter. Alors, un coup de fil, un texto. Que se passe-t-il? Tu fais partie du corps. Que se passe-t-il? Pourquoi saisir ce moment à dire, bon, pour le moment, donc, je vais vaquer à d'autres occupations? Si nous sommes une famille en Dieu, si nous sommes une famille en Christ, moi j'ai la liste de prières que je vous ai offerte il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous la voyez, si vous la regardez de temps en temps, je ne sais pas si ça vous arrive de prier pour les personnes qui sont sur cette liste, et dire, Seigneur, donne-moi un fardeau particulier pour telle famille, aide-moi à faire du bien à telle et telle. Pourquoi? Parce que c'est ça la famille de Dieu, c'est que nous sommes appelés à être ensemble dans l'église de Jésus-Christ, nous sommes appelés à tirer ensemble, à s'épauler et à marcher ensemble. Mais il y a parfois ceux qui vivent dans le désordre, il faut les avertir avec douceur, avec amour. Mais il faut les avertir. Il faut consoler ceux qui sont abattus. Oui, des fois, on a un esprit abattu. Et Dieu a promis qu'il va remplacer l'esprit abattu par un vêtement de louange. Mais peut-être que c'est quelqu'un, un frère ou une sœur, qui va nous aider à comprendre par les promesses de Dieu. Combien de promesses dans la Bible? 8321 promesses. On a de quoi encourager, on a de quoi exhorter à être encouragé, on a de quoi aider le frère, la sœur à se relever, consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience envers tous et poursuivre toujours le bien. La charité, c'est la vertu qui porte à vouloir et à faire du bien aux autres. Pas parce que, comme si nous étions des frères, mais parce que nous sommes des frères. Vous connaissez Jean 13, 34, 35. Ah, si tous connaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Je vous ai donné un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Ah, si tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Mais regardez 1 Jean chapitre 3, l'épître, la première épître de Jean chapitre 3, et le verset 11. Car ce qui vous a été annoncé, et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. On n'est pas forcé de le faire, c'est un devoir. On n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et le verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Je me rappelle une fois à l'école biblique, on passait 3 jours de jeûne et prière comme on a l'habitude, mais là c'était 24 sur 24. Et à la fin donc d'une de ces sessions, donc moi j'ai toujours pris la nuit, parce que qu'est-ce qu'on faisait d'autre que dormir? Donc voilà, c'était un moment de jeûne, de prière, de louange, etc. Et vers 4h du matin, je me rappelle, tout le monde s'est levé et a pris les uns les autres dans les bras, les uns les autres, en disant, voilà, je t'aime jusqu'à la mort. Et voilà, tu vois, on était vraiment, vraiment donc enflammés. On avait passé 3 jours dans les jeûnes et prières et on pouvait vaincre le monde et on pouvait conquérir donc le monde en tant que missionnaire, etc. Et on avait un amour qui débordait. Et je me rappelle avoir dit à Michael, oui, je t'aime jusqu'à la mort. Voilà, comme ça. C'était un petit peu la phrase qui avait retenti. Et 5 mois après, Michael m'appelle. Il m'a dit, tu sais, je me suis suicidé. C'était un collègue d'école publique, qui avait été abandonné par ses parents quand il était très jeune. Il a dû se débrouiller dans la vie. C'était un garçon qui était très, 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 très grand, très indiscipliné. Il m'a dit, je veux me suicider, mais je voulais te poser une question avant que je me suicide. Tu m'as dit quelque chose l'autre jour. Je dis, qu'est-ce que je lui ai dit qui lui a donné envie de se suicider? Il m'a dit, il y a 5 mois, tu m'as dit que tu m'aimais jusqu'à la mort. Mais c'est vrai. Il était à l'école biblique comme moi. Et je suis agrandi en Dieu. Avec ses difficultés, ses faiblesses. Et je lui ai dit, mais je viens te voir. Je suis allé chez lui. Donc c'est quelqu'un qui avait son propre appartement. Il avait des oiseaux, il avait des chats, des chiens, il avait des hamsters. Sa santé, vous imaginez. J'arrive. Et il me dit, tu sais, j'ai aucune valeur. Personne ne me pige. Je ne suis rien. Alors, oui, la Bible, etc., mais personne ne m'aime. Et alors, je commençais à parler avec lui, commençais à prier avec lui, il a commencé à pleurer, moi j'ai pleuré avec lui. Je lui ai dit, mais tu peux pas te supprimer comme ça. Ta vie est importante, à nos yeux, à nos cœurs, etc. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, m'aimer jusqu'à la mort? Je lui ai dit, mais t'empêcher de te suicider, c'est tout. Et je resterai ici jusqu'à ce que tu arrêtes de dire que tu vas te suicider. Et il a commencé à déballer tout ce qu'il avait dans son cœur, etc. Et toutes les souffrances, les blessures, etc., etc. J'avais jamais pris le temps de lui parler. Je n'avais jamais pris le temps de le regarder dans les 4 yeux et de lui dire, mais alors, de quoi es-tu fait? Quel est ton passé? Quels sont les fardeaux que tu portes? Etc. Et alors, au bout de 2-3 heures, il s'est calmé. En même temps, j'avais téléphoné à deux autres frères et on avait prié pour lui, il s'était calmé. Mais on lui a dit, tu sais, cette nuit, tu vas dormir chez un tel parce que il faut qu'on nettoie ta maison. Il m'a dit, vous venez nettoyer ma maison. On allait dans la cuisine, il y avait des assiettes d'il y a des mois sous l'évier. Il y avait de la nourriture partout. Ça sentait mauvais, etc. Et le samedi suivant, à 7h du matin et jusqu'à minuit, on s'est lancé à nettoyer à son appartement. Quelque chose d'inoubliable. Des sacs qu'on a dû jeter, etc. Et à la fin de la journée, il est revenu vers minuit et il était stupéfait. Il disait, mais je ne savais pas que mon appartement était si beau. Mais oui, mais il était beau. Bon, peut-être je t'encouragerais à t'en débarrasser de quelques animaux, hein, parce que je ne sais pas pourquoi il aimait bien avoir beaucoup, beaucoup d'aliments. Mais aujourd'hui, Michael est vivant. Il a 65 ans. Il a servi le Seigneur. Il a été assistant pasteur pendant plusieurs années. Mais si moi j'avais dit non, mais tu sais, je t'ai dit que je t'aimais jusqu'à la mort, mais c'était parce que tout le monde le faisait, hein. Qu'est-ce qui serait passé dans la vie de Michael? Nous nous aimons parce que nous sommes frères. Pas comme si nous étions des frères. Et donc si nous sommes des frères, nous allons nous connaître en tant que frères. 1 Pierre chapitre 1 verset 22 nous dit « Ayons purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Quel est le résultat? Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres d'un cœur de vérité, de tout votre cœur. Aujourd'hui, le monde périt parce qu'il y a un manque d'amour. Il y a un mal d'amour. Les gens ne savent pas. 1 Pierre 2, 17, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Un esprit de douceur, un esprit qui manifeste un cœur doux, humble. Je ne dis pas que nous sommes parfaits en humilité, en douceur. Mais Dieu nous appelle constamment, et c'est ça que Jésus enseigne. Recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Il ne dit pas recevez mes instructions, je vous apprendrai à prêcher, à chanter, à donc évangéliser, à prophétiser. Non, il vous dit recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur. C'est les deux choses qui caractérisent la vie de Jésus. Et dans toutes nos actions et nos paroles, il faut qu'on réagisse avec humilité et avec douceur. Philippiens chapitre 4, verset 4, nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je vous le répète, « Réjouissez-vous. » Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Nous ne devons pas nous aimer comme si nous étions des frères, mais parce que nous sommes des frères et sœurs. Galates chapitre 6, verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres. » Porter les fardeaux les uns des autres. Sommes-nous prêts à dire à quelqu'un « Comment vas-tu ?» et rester une demi-heure à entendre comment il va, comment elle se porte. Et comme résultat, être obligé de changer ce qu'on devait faire après le culte, ce qu'on devait faire dans la journée de dimanche. Pourquoi ? Parce que voici un frère, une sœur qui a besoin de savoir qu'on est prêt à porter les fardeaux qu'ils portent. Est-ce que leur fardeau est mon fardeau? Par rapport au fardeau, l'œuvre et la responsabilité que Dieu a mis sur notre cœur, parfois ça peut être un fardeau. Alors allégeons la tâche les uns des autres. Moi j'ai dit aux frères et sœurs, donc responsables de service, j'ai dit mais on est là pour s'alléger la tâche les uns des autres. On n'est pas seulement là pour remplir notre rôle, mais on est là pour porter le fardeau des uns des autres et savoir que le but recherché, c'est que l'Église en son ensemble marche et fonctionne et avance selon la vision et la mission que Dieu a mis sur notre cœur. Allégeons la tâche des uns des autres. Quand on fait le ménage et on fait une liste de ménage, certainement on préférera une autre liste dans la semaine, alors allégeons la tâche les uns des autres. C'est vrai que la liste était là. Mais j'ai vu souvent les mêmes personnes qui étaient en train de faire le ménage parce qu'arrivé à la fin de samedi, on se rendait compte qu'il n'avait pas été fait, la liste n'avait pas été respectée. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc allégeons la tâche les uns des autres. Sachons que si l'église elle est ouverte, si la salle est ouverte, si la salle est propre, si la salle est agréable, c'est parce qu'il y a ceux qui se disent « Mais moi, je vais prendre à cœur... » La propreté, je vais prendre à cœur le fait de rendre agréable l'endroit. Mais allégeons la tâche même pour eux. Parce que ce qui se passe, tantôt avec les responsables, tantôt avec les personnes qui sont toujours vouées à faire les mêmes choses, ils peuvent tomber dans un zèle amer. Et la Bible parle contre un zèle amer. Et il faut éviter que personne serve Dieu ou fasse des choses dans un zèle amer. C'est tellement important d'être prêt à porter les fardeaux les uns des autres. qui ont toutes sortes de fardeaux, l'anxiété, la déception, la tristesse profonde, la faiblesse, parfois la maladie. C'est trop lourd pour le corps, pour l'âme, de porter ces choses. Et quand à minuit, il y a quelqu'un qui est aux urgences et qui a besoin que quelqu'un soit là pour lui tenir la main et l'encourager et l'épauler, mais il faut être là à minuit, c'est pas grave. Il faut être là, il faut être présent. Pourquoi ? Parce que le fardeau qu'il porte. Moi, j'ai accompagné peut-être des dizaines de personnes à leur dernier souffle. Et être avec des familles qui sont en train de voir leur bien-aimé partir. Il y a des moments dans lesquels je dis carrément, et je disais ça à une sœur de notre église à Dieppe, elle a perdu sa mère cette semaine, de 96 ans et demi, et je lui ai dit, mais tu sais, Sylvie, laisse-la partir. Elle est prête à partir pour voir le Seigneur. Mais je ne veux pas l'avoir agonisée. Mais laisse-la partir. Aidez-lui. Maman, parte. Part. Elle a pris cette attitude et 3 heures après, sa maman, c'était le temps de Dieu, mais sa maman avait regagné le ciel. Mais quand elle a téléphoné un jour, j'ai dû téléphoner à plusieurs personnes, je n'étais pas là, et j'ai enfin trouvé une sœur qui s'est déplacée de 40 km pour aller se tenir avec elle et avec sa maman pendant que sa mère était en train de partir. Et elle m'a dit, jamais je vais oublier le geste de notre sœur qui est venue à 40 km pour être avec moi. Porter les fardeaux les uns des autres. L'anxiété, la déception, la tristesse. C'est trop lourd pour mon âme. Et pourtant la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des eaux paisibles. Il m'amène dans des verts pâturages, il me conduit sur des sentiers de la justice et il restaure mon âme par amour de son nom. Dieu va se servir de toi pour que l'âme de ton frère et de ta sœur soit restaurée. Il y a des choses aussi par rapport au passé sur lesquelles ton frère et ta sœur a besoin d'être restauré. Il y a des fois qu'on va prêcher par rapport à un certain thème et ça va ramener donc des souvenirs par rapport aux choses du passé quand on ne connaissait pas le Seigneur. Il y a des choses qui parfois dans notre vie ne sont pas encore guéries entièrement parce que chaque fois qu'on entend un certain sujet, ça nous titille et nous nous sentons brisés et nous nous sentons que nous sommes voués à rester dans notre passé. Et oui, c'est dans le partage, c'est en posant les bonnes questions qu'on va pouvoir un petit peu essayer de défricher le champ et aider la personne à s'ouvrir. Il ne va pas s'ouvrir devant 20 personnes, devant 30 personnes, mais devant un frère et une sœur qui manifeste un intérêt parce qu'il cherche à lui faire du bien. Parce que moi, je ne peux pas être bien si mon frère n'est pas bien. Je ne peux pas être heureux que notre église aille bien si je connais d'autres églises qui ne vont pas bien. Cela me concerne. Bientôt, nous allons avoir 2 jeunes. Un qui veut ouvrir une église dans le 10e, un autre qui va ouvrir une église dans le 20e. Et ils vont venir et ils vont nous parler de leur vision. Et on va les encourager, on va les encourager. Parce que le 10e a besoin d'autres églises. Il y a 179 000 personnes dans cet arrondissement. Et il y a 3 églises. Il y a de quoi ouvrir d'autres lieux de culte dans le 10e. Pour que les gens puissent dire, c'est mon église locale. Je sors de chez moi et je vois qu'il y a une salle de culte à côté. Et on va prier pour Terry. On va prier pour Harry. Et ils vont venir au milieu de nous. Et on va les accueillir. On va prier pour eux. On va les encourager. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils cherchent à gagner des âmes. Ils cherchent à toucher des vies. Parce qu'il y a des personnes qu'eux, ils toucheront, que nous ne pouvons pas toucher. C'est la réalité. Alors, une fois que nous avons été restaurés dans notre âme, nous allons vivre pour voir la restauration des autres. Oui. Et c'est pour ça que moi je m'intéresse et je vous pose des questions par rapport à vos familles et vos grands-parents parfois, et vos parents, et vos parents âgés. Pourquoi ? Parce que moi je veux être sûr que toutes les personnes qui étaient dans la possibilité de venir à Christ dans votre cercle intime, ils puissent avoir l'occasion de dire oui ou non. Parce qu'un jour vous allez au ciel, mais si vous allez au ciel et que vous voyez personne de votre famille avec vous, il y aura des larmes. Dieu dit qu'il va sécher les larmes, mais certainement il y aura des larmes au départ, parce qu'on va se rendre compte et on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plus, etc. Mais engage ton frère, ta soeur. Si toi tu n'as pas courage de parler à ta famille, mais amène un frère, une soeur pour leur parler. Et qui sait ? Moi j'ai fait des enterrements, des personnes qui se disaient athées, mais parce que j'avais eu un contact avec eux, ils avaient dit à leur fils, je veux que le pasteur fasse mon enterrement. Même s'il se disait athée, mais quand même j'ai pu prêcher l'évangile à tous ceux qui étaient présents, donc à cet enterrement, et ils ont entendu la parole de Dieu, et ils ont su que Jésus-Christ est vivant. Et le péché aussi, c'est un fardeau qui peut peser. L'aider jusqu'à ce qu'il s'en sorte. Prier et jeûner jusqu'à ce qu'il s'en sorte, si c'est nécessaire. Me tenir dans ses chaussures et dire, peut-être je n'ai pas fait ce que tu as fait, mais la Bible dit que nous étions tous pareils. Il ne faut pas penser que parce que moi je n'ai pas participé dans certains péchés dans lesquels tu as participé, que je ne peux pas prendre un regard de compassion et dire, Seigneur, ta parole nous dit que si ce n'était pas ta grâce, on serait tous pareils. De toute façon, on était tous désobéissants. On était tous donc dictés par les voluptés de la chair, par notre volonté. On faisait ce qui venait à notre tête. On était tous pareils. Aujourd'hui, on est sauvés par sa grâce. On est touchés par son amour. Mais il y a des personnes qui portent des fardeaux. Il y a des personnes qui portent des fardeaux et qui portent pas seulement les blessures, les déceptions, etc. Mais parfois, il y a des combats et des luttes. Et oui, Jésus est capable de sauver, il est capable de le transformer. Mais il y a des personnes qui ont du mal à comprendre. Ils ont du mal à renoncer. La Bible dit, renonçons aux œuvres de la chair, renonçons à ces choses. Mais il y a des disciples de Jésus-Christ qui ont besoin d'être accompagnés pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire de renoncer et de faire mourir les membres sur cette terre, de faire mourir les attitudes de cœur qui vont plus avec le monde. Alors, il faut porter ce fardeau et l'aider jusqu'à ce qu'il s'en sorte. Je serai dans la joie quand je sais que mon frère n'est plus dans le piège. Le psaume 124 dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu. Nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Combien de fois je rencontre des personnes qui sont piégées, mais on va faire tout ce qu'on peut pour que tu sors du piège, que tu sors du filet de l'oiseleur. Que tu sois libre. Afin que tu puisses libérer d'autres. Tu puisses encourager d'autres. Tu puisses restaurer d'autres. Alors il dit, ne nous lassons pas de faire le bien. C'est pas facile de faire le bien quand en retour, on a de la gratitude. On a de la différence. Je me rappelle, il y a un frère, j'ai dû le visiter 8 mois avant qu'il accepte de venir dans un lieu de culte. 8 mois. Mais qu'est-ce que tu viens faire encore? Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Oui, mais bon, tu sais toutes les choses que j'ai vécues, etc. Mais moi, j'ai connu. Tu sais, Dieu t'aime. Il a un projet pour toi. Il a un cœur pour toi. Alors, viens, viens. Encouragez celui qui est autour de nous à ne pas relâcher. Comment? Par les promesses de Dieu. Qu'il invoque le Seigneur, qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Vous lisez Ésaïe chapitre 40, verset 29 à verset 31. Le Seigneur donne de la force à celui qui est fatigué. Il va faire prendre le vol comme les aigles, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui le cherchent. Et invoque le Seigneur, et j'invoque le Seigneur avec toi, parce qu'il a promis qu'il va donner de la force à celui qui est fatigué. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais le repos de leur âme est quand ils sont en joug avec Jésus, et là ils trouveront du repos pour leur âme. Là il faut qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire d'être en joug. Il veut se manifester en nous, mais il faut qu'on invoque son nom. Aussi, il faut lui dire, porte ton regard sur Jésus, l'auteur et consommateur de ta foi. Qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 12 et verset 1, verset 3, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les yeux fixés sur Jésus, le chef et l'auteur, le consommateur de notre foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, n'a pas compté comme de l'ignominie, mais il a dit, à cause de la joie qui lui était réservée, il a dit, j'y vais. Considérez Jésus, verset 3, et ne vous lassez pas l'âme découragée. Considérons Jésus, ne nous lassons pas. Si nous lassons, c'est pour ça, c'est parce que notre âme est découragée. Qui se souvient aussi qu'il y a une récompense qui est réservée dans les cieux. Regardons 1 Pierre chapitre 1, verset 3. 1 Pierre chapitre 1 et verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, pour une espérance vivante, pardon, par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Je veux chercher à l'encourager à ne pas te lâcher et lui faire du bien. C'est ma famille, c'est l'Église, c'est quelqu'un qui fait partie de la maison de foi, c'est les frères dans la foi. Je ne peux que chercher à lui faire du bien pour l'encourager et qu'il puisse fixer ses regards sur le Seigneur et se dire, je me lèverai et j'irai et je m'approcherai de lui. Hébreux 10, 24 nous dit, provoquons-nous à l'amour et aux bonnes œuvres. Si tu te sens sûr dans l'amour que Dieu a pour toi et dans l'amour des frères et sœurs, c'est sûr et certain que tu vas vouloir découvrir quelles sont les œuvres que Dieu a préparées pour toi. En Éphésiens chapitre 2, verset 10, il nous dit, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous avant la fondation du monde afin que nous les pratiquions. Moi, je vais accomplir des œuvres que toi, tu n'accompliras. Et je ne pourrai pas faire et participer dans tes œuvres parce qu'il faut que moi je m'occupe des œuvres qu'il a préparées pour moi. Donc il faut qu'on soit tous occupés à accomplir les bonnes œuvres. Pas dans l'activisme. Et peut-être il y a des personnes, quelqu'un m'a dit cette semaine, mais certainement Dieu t'a mis en pause parce que tu étais, voilà, tu tombais dans l'activisme. Peut-être. C'est pour ça qu'il faut avoir un discernement et une sensibilité à connaître quelle est la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, quelles sont les œuvres qu'il a préparées pour moi, et il faut que je sois fidèle à les accomplir, et voir la conversion des âmes, et voir la guérison, et voir la restauration des vies, et voir comment Dieu peut libérer celui qui est sous l'emprise de Satan. Parce qu'il y a des personnes qui sont sous l'emprise de Satan, il y a des personnes qui ne peuvent pas dire Jésus est Seigneur, il y a des personnes qui ne peuvent pas dire Dieu même, ils ne peuvent pas le prononcer parce qu'ils sont traînés dans l'occultisme, dans le satanisme. Pas tous, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Alors c'est à nous de jeûner, prier et parfois pleurer et dire, Seigneur, touche cette société, touche cette famille. Donne-nous, Seigneur, de voir tes œuvres s'accomplir. Incitons-nous, provoquons-nous à l'amour et jusqu'à ce que la personne arrive à pratiquer les bonnes œuvres. On a de quoi faire. On ne peut pas lâcher nous-mêmes, on ne peut pas prendre du relâche non plus. Il faut que le disciple soit accompagné jusqu'au moment où il porte du fruit. Quelqu'un dit, mais à quel moment est-ce qu'un disciple est mûr, est mature? Moi, je pense que le fait que la personne gagne une personne pour Christ et commence à s'intéresser à sa vie spirituelle montre qu'il a une maturité. Alors, Romains chapitre 17, verset 25. Exhortons-nous mutuellement, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Alors le cri de mon cœur, et pendant ce temps, parce que j'ai eu beaucoup de temps à réfléchir, Seigneur, oui, il y a parfois des personnes qu'on ne voit plus au milieu de nous, mais Seigneur, qu'ils n'abandonnent pas l'assemblée des croyants, l'assemblée de foi dans leur cœur et dans leur vie. Et on peut tout faire pour essayer de faire revenir des personnes. On peut toujours aller courir vers des personnes. Mais il y a des fois, quand des personnes se rencontrent, ce n'est plus ici où je veux être. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais n'abandonne pas la foi. N'abandonne pas ton cœur pour Dieu. Et c'est à nous de veiller. Et c'est à nous de ne pas abandonner le fait de nous rassembler d'une manière régulière et assidue, d'une manière constante. Pourquoi? Parce que quand on se rassemble, on est là pour s'exhorter réciproquement, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. Et si nous avons besoin aujourd'hui d'être encouragés et fortifiés, c'est au sein de l'église locale que nous serons encouragés. C'est au sein de l'église, c'est avec nos frères et sœurs, c'est là où le Seigneur va nous parler. Et pour terminer, en Tite, il y a quatre passages qui parlent des bonnes œuvres. Tite chapitre 2, verset 7, il dit à Tite, Paul, te montrons toi-même à tous égards un modèle des bonnes œuvres et donnons un enseignement pur et digne. Tite chapitre 2, verset 14, Dieu veut se faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite chapitre 3, verset 1, Soyons obéissants et être prêts à toute bonne œuvre. Et Tite chapitre 3, verset 8, afin que chacun arrive à la pratique des bonnes œuvres. Nous encourager, nous faire du bien. Pas nous faire du bien nous-mêmes, mais je suis là pour te faire du bien. Je suis là pour t'encourager. Dans les rendez-vous et dans les moments de partage et dans les conversations, il faut qu'on s'intéresse à savoir comment vas-tu en faire, est-ce que tu comprends les promesses de Dieu, est-ce que tu marches selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ne reste pas à la traîne, parce que je suis là pour te provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. Prions. Père, nous venons devant toi ce matin. Combien de fois chacun de nous, on avait besoin de quelqu'un qui vient à nos côtés pour nous provoquer, nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas le faire sauf si on a une compréhension de comment on vit pour faire du bien à ceux qui nous entourent. Le désir, Seigneur, de mon cœur pour cette église locale, c'est que des personnes viennent et qu'elles puissent dire « On m'a fait du bien ». La parole de Dieu a pénétré dans mon cœur parce que ça a été présenté d'une telle manière, d'une telle façon, que je voyais la lumière de Christ. Je sentais cet amour de Dieu qui émanait de la personne qui m'a parlé. Que personne vienne dans un lieu de culte comme celui-ci et réparte en disant « Mais c'était comme toujours. C'est une réunion comme dans toutes les réunions. » Non. Il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs et au fond de notre cœur quand nous avons une rencontre profonde avec toi. Seigneur, nous sommes dans une période dans laquelle, Seigneur, le diable essaie de tout faire pour essayer de nous distraire, pour essayer de nous dérober ta joie, de nous dérober ta paix. Mais si nous n'allons pas fléchir, nous n'allons pas prendre relâche, nous n'allons pas nous lasser de faire le bien autour de nous. Parle à nos cœurs. Qu'on puisse commencer à faire du bien dans notre maison, envers nos parents, envers nos enfants. Qu'on puisse commencer, Seigneur, dans notre cercle intime. Par la suite, Seigneur, nos frères et sœurs, même dans la chair, alléger la tâche, faire du bien à nos frères et sœurs dans la chair. Et ensuite, Seigneur, veiller à faire du bien à nos frères et sœurs dans la foi. Combien de personnes viennent ici avec des fardeaux? Ça pèse lourd. Ils peuvent avoir un grand sourire, mais Seigneur, sous le sourire, il y a la tristesse. Je te demande, Seigneur, que tu nous donnes une sensibilité, un discernement, et ne pas lâcher la personne jusqu'au moment où ils disent et ils crient « J'ai la victoire en Christ ». Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je l'ai compris. Je l'ai compris. Merci Seigneur. Parce que tu nous appelles chaque jour, Seigneur, à être rafraîchi. Et ce matin, tu nous as rafraîchi. Tu as rafraîchi notre âme. Nous ne voulons pas attendre jusqu'à dimanche prochain pour te rafraîchir à nouveau. Nous voulons que chaque jour soit un jour de rafraîchissement, un jour de renouvellement en toi. Parce que nous veillons, Seigneur, sur nos frères et sœurs, nous les encourageons, nous cherchons à faire du bien autour de nous. Que ton nom, Seigneur, soit élevé et glorifié. Révèle-toi à nos cœurs. Bénis-nous, parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on pourrait chanter ce chant? Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Et si le Seigneur met sur ton cœur d'aller vers quelqu'un que tu connais, quelqu'un avec qui tu sens confiance, et communique-lui ce fardeau, communique-lui ce que tu ressens, communique-lui donc quelles sont les choses qui parfois t'empêchent d'avancer. Moi, je peux avoir une communication avec chacun de vous, je peux avoir une conversation avec chacun de vous, mais il faut se être ouvert, être prêt à porter les fardeaux, être prêt à faire du bien autour de nous. Amen.